L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion, en espèces sonnantes et trébuchantes, enfin pas tellement sonnantes, plutôt en papier, les monnaies locales, de jolis billets colorés qui ont des noms poétiques, Éole, Bise, Buzuc, Ségal ou encore Galéco. Il y en a 12 en circulation en Bretagne historique, soit l'équivalent de 300 000 euros, 6 000 utilisateurs, dont un millier d'entreprises qui sont adhérentes à une monnaie locale. Avec nous, Iwan Leclèche, on commence à le connaître sur Radio Évasion. Il est urbaniste, géographe et il a plusieurs casquettes. Après les trains et le commerce de centre-ville, voici son troisième sujet fétiche, les monnaies locales. Donc bonjour Iwan.
Bonjour et merci de l'invitation.
Alors quand est-ce que le phénomène monnaie locale a commencé? Quand est-ce qu'on peut l'identifier?
Alors la monnaie locale en fait va commencer avec l'histoire de la monnaie, donc avec la Grèce antique, le drachme. Mais la monnaie locale en elle-même, c'est quelque chose, c'est un outil qui se développe après chaque crise. Donc on va dire que dans l'histoire contemporaine, c'est la Première Guerre mondiale et surtout la Grande Dépression qui a suivi, qui sont à l'origine des premières monnaies locales. Donc concrètement, en Allemagne, il y a une monnaie qui a été fondée dans une ville bavaroise pour relancer l'économie locale. Alors ça a plus ou moins marché, plus parce que ça a été quand même un petit succès, moins parce que ça n'a pas empêché la fermeture de la mine qui faisait vivre la ville. Sauf que la monnaie locale aidant, ils ont pu racheter la ville, la mine, et la faire fonctionner et payer les salaires en monnaie locale. Et donc la mine, en fait, a été relancée grâce à la monnaie locale. Après, il y a eu un certain Adolf Hitler qui est arrivé au pouvoir, qui a dit stop, mais c'était un succès. Et après, deuxième exemple concret, en Suisse. Donc en Suisse, ils ont une monnaie locale qui marche super bien, le VUR, donc une monnaie inter-entreprise, et qui a été créée à cette période-là, on va dire, et qui s'est développée vraiment suite à la crise du franc suisse après la Deuxième Guerre mondiale.
Et donc c'est uniquement pour que les entreprises entre elles s'achètent des services ou des produits mutuellement, c'est pas pour les particuliers en
c'est
fait.
C'est ça, celle-là c'est entre entreprises. Alors habituellement c'est plutôt entre particuliers et des fois entre entreprises, mais globalement la monnaie a fonction de permettre, de faciliter les échanges. Alors il y a des échanges entre entreprises, il y a des échanges du producteur au consommateur de façon directe, donc on est vraiment dans les circuits courts comme l'EM en fait. Et la monnaie va servir aussi à toutes les transactions en fait, y compris payer sa cantine, y compris payer son fournisseur, y compris payer les salaires. Donc la monnaie finalement c'est tout ce qui va concrètement, et j'insiste sur le mot concrètement, être transféré d'une personne A à personne B. Donc concrètement, parce que avec le système bancaire actuel, on est plutôt sur du financier, on est plutôt sur de l'argent et non pas de la monnaie.
Et on est quoi la différence en fait?
En fait, il y a une notion de dette et de reconnaissance de dette. Et pour faire simple, l'argent qui circule va être 8 à 10 fois, selon les estimations, supérieures à la monnaie qui existe réellement.
L'argent qui circule, c'est du crédit que les banques font aux gens, en fait. C'est un peu ça, quoi.
Que les banques font aux gens, que les gens font aux banques, les banques font aux banques, etc. Et qu'en fait, nous, on croit avoir, alors sur notre compte bancaire, pas forcément, mais surtout ce qu'est livret, caisse, assurance vie, etc. Où finalement, l'assurance vie, c'est quoi? C'est on prête de l'argent à la banque, qui prête de l'argent globalement à un groupe d'investisseurs qui va prêter de l'argent à quelqu'un qui souhaite se développer, qui en contrepartie va prêter de l'argent, va avancer de l'argent à ses fournisseurs, à ses salariés, etc. avec potentiellement un retour sur investissement plus ou moins fort, mais qui finalement va se concrétiser par le réinvestissement et donc finalement l'enrichissement du système bancaire en lui-même et pas de l'économie réelle.
Et puis en plus, si ce qu'il y a sur le livret souvent n'est pas exactement disponible immédiatement, c'est-à-dire que si tous les gens voulaient en même temps retirer l'argent qui est sur leur livret, ça serait la catastrophe, les banques ne pourraient pas vraiment fournir.
C'est
quoi.
Ça, on appelle ça une crise de liquidité, c'est ce qui est arrivé dernièrement, ou a failli arriver en Islande.
Alors, les monnaies locales, telles qu'on les connaît aujourd'hui en gros, déjà, comment est-ce que ça fonctionne une monnaie locale contemporaine, on va dire alors?
Alors j'ai envie de dire, un billet de 10 euros, c'est une monnaie locale à l'échelle de l'Union européenne, enfin de la zone euro. Donc finalement, ça fonctionne assez simplement. Concrètement, en France, parce que la loi est différente selon les pays, En France, c'est très cadré par la loi Hamon notamment.
Donc, la loi c'est Hamon, la loi sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire.
C'est ça, la loi Hamon sur l'ESS. Donc il y a une association porteuse. Donc c'est une obligation légale d'avoir une sorte de banque associative en fait, qui va émettre entre guillemets, qui va créer des moyens de paiement, mais qu'elle ne peut mettre en circulation qu'à condition d'avoir la somme équivalente en euros de convertie en monnaie locale. Donc concrètement, l'utilisateur, qu'il soit particulier, institutionnel, privé, arrive, dit voilà, je voudrais échanger 20 euros contre 20 éoles. L'association EOL, l'association qui porte l'EOL, la monnaie locale de Brest, va alors mettre en circulation 20 EOL et retirer 20 euros de la circulation.
Mais elle les met où ces 20 euros? Elle les met dans une banque en fait.
Alors il y a ce qu'on appelle un fonds de garantie, donc qui garantit en fait à l'utilisateur de l'EOL de pouvoir à tout moment, quand qu'il souhaite, donc la différence avec par exemple l'assurance vie, de pouvoir récupérer ces 20 euros. Donc concrètement, une entreprise qui reçoit 20 éoles peut décider de les échanger en euros.
À tout moment, enfin.
À tout moment. Après, selon des conditions propres à la monnaie locale, qui peuvent être avec un bonus, balus, voilà, elle peut échanger 20 éoles contre 19 euros, par exemple.
Ah oui, il y aurait une commission, en fait.
Commission, c'est ça.
Ah ouais. Pourquoi? Alors pour après, faire vivre l'association ou pour
ça pour serait... faire vivre l'association et puis pour inciter en fait à ce que les éoles restent en circulation. Parce que l'entreprise, si elle a le choix entre dépenser 20 éoles et 19 euros, elle va choisir, bien entendu, le plus fort à condition de le pouvoir. Alors je dis 20-19, les chiffres ne sont pas forcément exacts. Je connais plutôt le Busuc à Morlaix qui était sur une commission de l'ordre de 4-5%.
Ah quand même, ah ouais.
Voilà, donc... Mais on n'est pas sur une commission de 10% ou 20%. Après, il y a des monnaies en fait, qui vont être fondantes.
Alors oui, qu'est-ce que ça veut dire une monnaie
donc,
fondante?
Les monnaies fondantes, en fait, c'est pour inciter à consommer, à dépenser la monnaie locale, localement déjà et rapidement. Donc vraiment à ce qu'il n'y ait pas de thésaurisation, mais des réinvestissements locaux. Et la monnaie va être fondante dans le sens où le billet, par exemple, va perdre de sa valeur.
Au bout de 6 mois, par exemple,
par
si on n'a pas utilisé la monnaie, eh ben, il va plus valoir un...
Au lieu de 10, il va valoir 9.
Ouais, voilà, c'est voilà. Ça.
Alors après, soit le billet vaut plus que 9 au lieu de 10, soit il faut racheter un coupon pour que le billet vaille toujours 10. Mais de façon générale, et je crois que les auditeurs l'ont bien compris, c'est assez difficile à mettre en œuvre, notamment parce que c'est lourd le fait de suivre la valeur de chaque billet ou de racheter ou de vendre les coupons. Et puis faire admettre à quelqu'un que le billet de 20 vaut plus que 19 ou 18 ou moins, c'est un petit peu compliqué. Alors il y a un projet de monnaie régionale en Bretagne.
Ouais, on va en reparler, ouais.
Oui, il y a un projet de monnaie mais il y a un autre projet qui est porté par une association plutôt proche de la majorité gouvernementale actuelle, on va dire ça comme ça, qui est sur un système un peu équivalent. Donc de bonification... 10 euros seraient échangés contre 10 lures ou je ne sais pas le nom qu'ils donneraient à leur monnaie. Et ensuite, la monnaie perdrait rapidement de sa valeur de façon à pouvoir injecter continuellement du cash dans l'économie réelle. Donc c'est ça en fait l'idée, c'est réinjecter du cash dans l'économie réelle et maintenir les dépenses localement de façon à agir pour les populations locales, de façon à agir pour les commerçants, producteurs, etc. locaux, et puis de façon à relocaliser l'économie, c'est-à-dire à agir positivement pour l'environnement.
Et justement, quand on dit monnaie locale, enfin, on peut les appeler monnaie complémentaire à l'heure actuelle, c'est en gros le territoire, c'est quelle taille les territoires de ces monnaies-là pour l'instant?
Alors en Bretagne, on va être grosso modo à l'échelle du pays, donc du pays Loire-Voinais ou PETR, enfin de... Pour Brest, pour reprendre l'exemple de Brest, ça va être la communauté urbaine de Brest, enfin Brest Métropole. Ça va être les Comcom, Iroise, Aber, Lesnevin, Landivisio et Crozon. Voilà.
Et Châtelain aussi en fait partie. Donc c'est assez grand quand même. Enfin, parfois c'est un peu grand, c'est le problème d'ailleurs.
C'est grand et c'est un petit peu le problème. Et là, une monnaie locale qui est en train d'être finalisée en Bretagne sur le secteur Lannion-Guingamp. Justement, j'étais en discussion avec eux la semaine dernière. Et bah, ils ne connaissent pas l'ensemble des communes de leur territoire parce que chacun a sa commune de référence, et ce qui est normal. Donc c'est effectivement un problème et c'est un frein au développement de certaines monnaies locales. Donc en Ille-et-Vilaine, il y a une monnaie locale
C'est le Gallico, c'est ça?
C'est le Gallico, qui est plutôt axé Rennes, Redon, mais qui de fait a été porté par le département d'Ille-et-Vilaine et qui, va dire, connaît un dynamisme moindre que d'autres monnaies, le Gaël à Plohermel par exemple. Dans les Ardennes ou les Hautes-Pyrénées, on a exactement le même problème de monnaies qui vont avoir finalement des aires d'influence un petit peu grande pour des bénévoles parce que, enfin,
ouais, parce qu'il faut expliquer aussi aux gens que pour que la monnaie puisse être utilisée, il faut que les commerçants, les entreprises l'acceptent. Donc il faut qu'elles adhèrent, donc il faut les convaincre d'adhérer. S'il n'y a pas assez de commerces qui adhèrent, finalement les gens ça les intéresse pas parce que s'il y a une seule boulangerie à 20 km à la ronde, ils vont pas aller à 20 km pour payer en éole ou buzuc.
C'est ça, et c'est pour ça que les monnaies locales se développent quand même surtout dans les villes.
Ouais.
Alors, on a l'exemple du Pays basque, où la monnaie locale a été créée pour défendre la langue basque.
Ah bon, comment
donc
ça
là, le Chco au Pays basque, c'était vraiment sa finalité locale. Donc, là, on est sur un territoire vraiment identitaire, vraiment identifié, et avec un volet culturel fort, et puis un nombre d'adhérents professionnels et particuliers qui est très important. Donc, ça va être une sorte de contre-exemple, mais globalement, c'est vrai qu'il y a une ville qui va porter le développement. Et après, la monnaie locale peut s'étendre à d'autres villes. Par exemple, le Buzuc est en train petit à petit de prendre possession de Saint-Paul-de-Léon et de Roscoff.
Aux alentours de Morlaix.
De petit à petit de se déployer dans d'autres villes. Et c'est une question, en fait, la question primordiale, c'est vraiment de prendre le temps, de bien faire les choses. Et effectivement, les bénévoles sont là pour convaincre les utilisateurs et les professionnels. Après, j'ai envie de dire, les professionnels, c'est pas forcément le plus compliqué, dans le sens où le bénévole va être quelqu'un normalement de convaincu, par définition, et que le bénévole va vouloir payer en buzuc, en éole, en galéco, etc. Et en fait, le fait de faire comprendre aux professionnels que s'il n'accepte pas les éoles, par exemple, au fou, le client ira voir ailleurs, peut être un argument assez suffisant pour convaincre du moins les premiers.
Ouais.
Et après, au lancement d'une monnaie locale, Lopez à Lannion, Guingamp, je pense qu'ils seront dans cette dynamique-là. Il y a l'effet vraiment nouveauté, apport sur le territoire qui va porter le développement. Mais les bénévoles ont aussi tout ce qu'on ne voit pas à faire, c'est-à-dire la gestion administrative, financière, des comptes, etc., du nombre d'adhérents, de l'état des cotisations, de la communication, etc. Donc, c'est un travail qui, comme dans chaque asso, est lourd, voire très lourd.
Puis il faut imprimer les billets à chaque fois qu'il y a une adhésion.
Il y a un coût, et puis c'est des billets, donc c'est quand même de l'argent, c'est de la valeur. La monnaie locale, c'est quelque chose, ça ne s'improvise pas. Quoi. C'est pas, je prends mon imprimante à 4, j'imprime 10 billets de 10 lures ou je ne sais pas quoi.
Ouais.
C'est non, vraiment, faut qu'il y ait une sécurité.
Ouais, c'est ça. Il y a une espèce, là, en fait, sur l'éole, typiquement, il y a une espèce de, c'est pas un filigrane, je sais pas.
Alors, il y a de l'encre non imprimable, déjà.
Ah oui, d'accord.
Alors, l'éole, je peux pas dire. Morlaix, je sais qu'il y a plusieurs niveaux de sécurité. Il y a l'encre qui empêche la réimpression. Il y a le filigrane.
Mmh.
Il y a des numéros de série.
Ah ouais.
Et puis, il y a aussi une sécurité toute bête. Mais vu que la monnaie n'est que locale, elle n'est pas européenne, elle n'est pas nationale, donc elle est difficilement réutilisable hors de son territoire de fonctionnement.
Oui, autrement mais le but, dit, c'est qu'elle s'utilise dans le territoire en même temps.
Oui, donc. Mais c'est une protection supplémentaire contre la falsification, contre le vol, etc.
Ah oui, d'accord, voilà. Je comprends.
Et après, globalement, il y a une ou deux sécurités. À Morlaix, ils en ont quatre, mais
d'accord.
Globalement, il y en a un peu moins.
Et sinon, donc, plus ça va, plus elles se numérisent quand même, ces monnaies, malgré tout. Elles ne sont pas que papier.
Alors, elles se numérisent, mais elles restent papier.
Oui.
Donc les monnaies locales de Bretagne sont en train petit à petit de passer vers l'ère numérique. Alors certaines ont de l'avance. Et à Nantes, donc il y avait une monnaie locale à Nantes qui était purement numérique.
Et donc là, on paye avec une application mobile.
On payait avec une carte magnétique en fait.
Mais spéciale, pas la carte bleue classique quoi.
Spéciale, une carte spéciale. Et en fait, il y avait deux monnaies donc en Loire-Atlantique. Enfin, une à l'échelle de Nantes et une à l'échelle de la Loire-Atlantique qui ont fusionné de façon à avoir et le numérique et le papier.
D'accord.
Donc deux monnaies qui ont donné aujourd'hui le Monéco.
Et parce que c'était une demande du public d'avoir quand même la version papier
c'est
maintenue.
Ça. Okay. C'est ça. Et concrètement, en Suède, donc un pays qui est à fond sur le numérique, etc., où il était question de faire en sorte que les gens ne puissent plus payer qu'avec une puce dans la peau, la Suède avait renoncé à l'argent papier.
Oui, j'avais entendu dire ça.
Et est revenue à l'argent papier.
Ah, je ne savais pas.
Malgré la pandémie, donc on est...
Ouais. La on s'en débarrassera pas si facilement.
Voilà, c'est... Et puis c'est quelque chose, ça peut être des beaux objets, que ce soit les monnaies locales ont toutes des beaux billets, mais la Suède aussi avait probablement toujours des superbes billets avec des signes, etc. Donc c'est...
Ouais, c'est tellement symbolique.
Il y a le côté symbolique, c'est ça. Et après, par contre, c'est souvent effectivement des billets, c'est rarement des pièces. Et donc en numérique, effectivement, il y a le côté carte magnétique, et souvent, c'est vrai que c'est des applications. Donc applications téléphone ou applications web, et globalement, les deux se rejoignent. Donc le Buzuk, par exemple, est en train de montrer sa propre application. Les monnaies locales de Bretagne donc, réfléchissent à monter un système commun pour converger à partir de cette année vers une monnaie commune, donc une monnaie de monnaie en fait.
Ça serait quoi l'intérêt alors ?
Alors c'est de permettre les échanges entre monnaies, tout simplement entre territoires.
Donc un éole contre un buzuk, ça
c'est
pourrait.
C'est ça, donc en fait l'éole et le buzuk sont indexés sur l'euro, donc un éole vaut un buzuk, mais un buzuk vaut aussi un oshko, etc.
Ouais, donc finalement on pourrait quoi.
Voilà, c'est assez facile, et justement l'éole et le buzuk vont avoir le secteur de Landerneau, Landivisio, ou potentiellement le fait de n'utiliser que l'éole à Landerneau ou que le buzuk à Landivisio. Va
c'est
être
dommage
un frein
parce que
pour
ouais,
certains,
c'est
notamment
vrai.
Les producteurs de Landivisio qui vont vendre sur le marché à Brest.
D'accord, donc oui, effectivement. Et donc, dans ces cas-là, s'il y a une sorte de. Ce n'est pas une fusion, mais une sorte de collaboration des monnaies, il faut qu'il y ait une supra-association qui les réunisse toutes, ou comment ça peut se
gérer ?
Alors,
s'il y a une monnaie en soi, il faut qu'il y ait une association qui porte, mais qui peut très bien être une existante. Sinon, elles sont déjà, de toute façon, organisées en collectif régional. Donc. Et puis, il y a des organismes nationaux aussi qui s'occupent de coordonner l'action des monnaies. Donc, de fait, c'est pas forcément le plus gros problème. Le plus gros enjeu, la plus grosse problématique, c'est plutôt concrètement de faire une application, parce que ça nécessite une application sécurisée qui permette...
Application mobile, on parle
oui,
d'application numérique.
Mais c'est alors, ça, qui permette à chacun d'être certain... que l'argent soit, sur l'application, reste sur l'application et n'est pas volable en fait.
Et c'est là que j'allais poser une question, pourquoi ne pas faire dans ces cas-là sous forme de crypto-monnaie ?
Alors la crypto-monnaie, on va parler du Ravencoin, on va parler du Bitcoin, etc. A quand même une vocation un petit peu spéculative qui n'est pas en adéquation avec les valeurs des monnaies locales, j'ai envie de dire tout simplement. Après, techniquement, oui,
ça serait pas idiot.
C'est quelque chose de faisable. C'est quelque chose de faisable. Légalement, je ne garantis pas que ce soit réalisable, par contre.
Et on ne pourrait pas faire une crypto-monnaie dont les usages seraient limités justement au territoire, avec qui ne permettent pas la spéculation.
On peut toujours, et ça se fait. C'est à l'Envolon, dans les Côtes d'Armor, il y a une personne qui est un peu spécialisée sur la question, qui... souhaite-elle lancer une crypto-monnaie à l'échelle de sa commune. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Après, il n'y a pas le cadre juridique de la loi Hamon. Il n'y a pas tous les organismes monétaires, financiers, européens qui vont courir en cas de problème. Donc, il y a le risque d'avoir une désindexation sur l'euro. Il y a le risque de tout perdre. Il y a le risque de spéculer. Donc, la loi Hamon, c'est un cadre lourd. Mais c'est avant tout un cadre. Donc moi, je vois ça comme sécurité et ça ne permet pas de tout faire. Mais après, une monnaie crypto-monnaie locale, rien n'empêche les gens de le faire. Mais ça reste une monnaie locale qui ne rentre pas dans le cadre de la loi Hamon et dans le cadre des monnaies locales. En fait.
Ouais, d'accord. Pas de monnaie sans confiance.
Et de fait, les cartes de fidélité des magasins rentrent un petit peu dans ce modèle-là. Enfin, si vous allez à Casino... vous cagnotez, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était des smiles dans le temps, mais c'est des points de fidélité. C'est le point de fidélité indexé sur l'euro, on peut payer en point de fidélité, etc.
Ouais.
Ça reste une monnaie locale à l'échelle d'un magasin.
D'accord.
Et plus connu des gens, le chèque vacances, le chèque déjeuner, sont des chèques, sont des monnaies locales émises pour le compte de l'État, par des organismes spécialisés pour permettre aux salariés de partir en vacances ou de manger, etc. Mais ça reste aussi le principe de la monnaie locale.
Alors les monnaies territoriales, on va dire, elles sont associatives, mais j'ai cru comprendre que pour que ça fonctionne vraiment, il faut que derrière, il y ait un soutien d'une collectivité, enfin c'est mieux en tout cas, qu'il y ait un soutien d'une collectivité, que ce soit une communauté urbaine, une communauté d'agglomération, carrément un département, une région. C'est vrai, quels sont les rôles de ces collectivités justement ?
Alors il y en a plusieurs. Déjà, une collectivité locale a un budget. Donc bah, c'est bête, mais pour lancer une association, c'est compliqué de le faire sans budget, quelle que soit l'association, ne serait-ce que pour une tenue de compte ou imprimer imprimer des lettres, envoyer des courriers, etc. Donc les pouvoirs publics vont pouvoir financer, les pouvoirs publics vont pouvoir légitimer aussi. Donc par exemple, pour le JCO, dire que le maire de Bayonne paye une partie de ses courses à une partie de ses indemnités en JCO, c'est une sacrée légitimité. Et puis, les services publics peuvent être payables en BUZUC, en EOL, en ce qu'on veut. Donc, le rôle est multiple.
Ah oui, on peut payer la cantine
en
BUZUC.
Par exemple.
D'accord, ok.
Mm-hmm. On peut très bien imaginer qu'au FOU, la cantine du FOU soit payable en EOL. Et donc, en fait, le rôle des collectivités locales va être multiple. Et il est primordial dans le sens où c'est des acteurs majeurs et que souvent les élus derrière le premier élu va entraîner le deuxième, etc. Et puis ils vont entraîner tout un réseau d'acteurs, tout un réseau de professionnels qui va permettre déjà une visibilité et qui va surtout permettre de développer le réseau plus encore. Donc à Dunkerque, à Boulogne-sur-Mer, à Grenoble, c'est vrai qu'il y a un portage officieux par les élus qui permet un développement qui ne serait pas possible sinon.
Et il y a des actions aussi nécessaires derrière, enfin je sais pas, les JCO, là, la monnaie basque, comment est-ce qu'elle soutient la langue basque? Je comprends pas bien, par quel moyen?
Alors déjà, il y a un moyen tout bête qui peut être de dire, voilà, nous à le JCO, on défend la langue basque, donc si vous adhérez à le JCO, vous adhérez à la défense de la langue basque, donc en affichant l'acceptation des paiements en JCO, vous affichez votre soutien à la langue basque. Et donc, c'est un fléchage des commerces, donc de la consommation vers des commerçants, vers des producteurs qui ont telle valeur. Donc, au Pays basque, c'est la langue basque, mais ça peut très bien être tout simplement la défense du territoire, la défense de l'environnement. Donc, vous payez en monnaie locale, vous acceptez la monnaie locale, c'est un signe de défense du territoire, c'est un signe de défense du climat, de la planète, etc. Et après, il y a tout ce qui est commission lié à la conversion, donc monnaie locale euro, qui peut servir aussi à financer des actions. Et enfin, donc, je parlais du fonds de garantie, donc des euros sont échangés contre des EJCO, des BUZUC, etc. Ce fonds de garantie-là, donc c'est de l'argent qui est immobilisé, mais qui en fait n'est pas si immobilisé que ça, dans le sens où généralement il va être placé sur un compte à la NEF ou au Crédit Municipal, enfin dans une banque éthique, dans une banque qui va avoir certaines valeurs en adéquation avec l'association qui porte la monnaie locale et qui donc va permettre de financer des projets. Alors des projets territoriaux, mais pas forcément. La NEF, par exemple, va financer des projets en lien avec le développement durable à l'échelle de la France. Le crédit municipal, par exemple, donc le Mont-de-Piété, va aider les populations les plus en difficulté. Le crédit coopératif va avoir aussi une vocation sociale, une vocation économique un petit peu alternative.
Oui, puis c'est des placements qui ne sont pas risqués aussi. Enfin, ce n'est pas du hautement spéculatif. Quoi.
C'est ça. Puis de toute façon, les banques choisies sont des banques en adéquation avec les valeurs de l'association qu'ils portent.
Et donc, ce sont les banques qui garantissent la monnaie. Ce ne sont pas jamais les collectivités ou... voilà. Enfin...
De fait, ça va être la banque parce que ça reste de la monnaie et que derrière les banques, il y a la BCE.
Ouais, c'est ça, en dernier ressort, c'est la BCE qui garantit aussi les monnaies locales et tout
ça,
le reste. Quoi.
Mais après, une collectivité locale, de fait, se porte garante aussi. Donc,
Donc les facteurs de réussite de ces monnaies-là, c'est donc un soutien d'une collectivité, c'est ça,
et puis c'est important, un territoire, on va dire, un territoire pertinent. Donc dans l'idéal, c'est une ville qui ne soit pas forcément trop grosse. Parce que si on prend Paris, une monnaie locale à l'échelle de Paris, ça commence à être gros. Même Lyon-Toulouse, il faudrait voir, c'est peut-être même trop gros. Nantes, on a vu que les deux monnaies ont été obligées de fusionner, donc c'est qu'il y a quelque chose. Rennes, ça ne marche pas forcément très très bien. Donc il faut qu'il y ait un territoire assez pertinent. Et le problème va être souvent plutôt les zones rurales autour de la ville, donc globalement une ville moyenne quand même, qui ne vont pas avoir assez de bénévoles, pas avoir assez d'entreprises et qui, de fait, ne vont pas avoir le rôle de production des biens, des marchandises, des services qui vont alimenter la ville petite ou moyenne. Et c'est un petit peu ça, l'un des problématiques, c'est des territoires qui sont parfois trop élevés. Donc je parlais de la monnaie locale, Lannion, Guingamp, Paimpol. Eux, ils fonctionnent par cercle, justement, pour avoir une pertinence géographique assez forte.
Mmh. Ouais, pour que le tissu soit pas trop lâche, quoi.
Et puis que finalement, il n'y ait pas une déconnexion entre les valeurs locales et puis les autres valeurs, ce qui peut être un risque. Enfin, il faut savoir qu'en termes d'achat, les personnes qui font les trajets les plus longs pour faire leurs courses, c'est ceux qui, paradoxalement, vont défendre le bio, le local, etc.
Ouais, donc bon.
Hein, donc il y a un paradoxe.
Le bilan carbone n'est pas excellent.
C'est ça,
quoi.
Le bilan carbone n'est pas bon, il y a un paradoxe. Et de fait, il y a moyen de faire bien mieux. Et les monnaies locales sont là pour ça. Sauf que pour ça, il faut qu'il y ait un réseau de producteurs, un réseau de consommateurs et un réseau de commerçants locaux assez fort. Et globalement, à l'échelle d'une petite commune, d'un gros bourg, d'une petite ville, il faut passer soit par une asso de commerçants, soit par la commune, de façon à ce que l'ensemble de l'offre soit disponible à l'échelle de la commune. Donc ça peut être tout simplement par le biais d'un marché. Hein. Il y a des marchés qui sont adhérents à des monnaies locales ou en voie de l'être.
Très bien. Bah, merci, Juan Leclèche. De toute façon, on reviendra sur cette question des monnaies locales complémentaires avec des acteurs qu'on interviewera aussi, bien sûr. À bientôt.